Chapitre 9e. Nous nous étions réunis dans le coin où se trouvait mon chalit. Quatre d'entre nous étaient assis sur la paillasse, quatre autres sur celle de Pelet. Quelques-uns se tenaient debout, enfin les derniers étaient adossés au mur. J'avais divisé ce que j'avais à dire en trois points. Je m'apprêtais à parler, lorsque tout à coup, Pelet se mit à pousser des cris. Son portefeuille avait disparu, avec l'argent et les fameuses photographies qu'il contenait. Comme il ne le retrouvait pas, nous nous mîmes à le chercher partout, mais en vain. À la fin, j'observai que nous pouvions remettre nos recherches à plus tard, qu'il valait mieux profiter de ce que nous fussions réunis pour parler de choses sérieuses. On parut me donner raison. On commença par m'écouter, mais bientôt je sentis que le fait que je ne faisais aucune allusion au vol dont Pelet avait été victime, et que je m'étendais sur la nécessité de prendre une décision le plus rapidement possible au sujet de notre évasion, car nous pouvions, d'un jour à l'autre, être renvoyés à Bibrard, et alors Dieu sait quand une nouvelle occasion se présenterait, était interprété comme une façon de détourner l'attention, et presque comme la preuve que j'étais pour quelque chose dans la disparition du portefeuille. Billot, à ce moment, me coupa la parole. Il m'énervait déjà depuis longtemps avec sa manie de répéter tout le temps qu'il était normand, « bon normand, vrai normand et vieux normand. » Il dit qu'il ne fallait pas que nous puissions nous soupçonner les uns les autres, qu'il fallait que nous désignions l'un de nous pour fouiller dans les poches et les paquetages de tous. Comme personne ne s'offrait, il ajouta que Bailliencourt lui paraissait le plus indiqué. Tout le monde fut de cet avis. Mais moi, je commençais à en avoir assez de ces trois compères qui prétendaient nous mener tous. Je ne voulais pourtant pas aller jusqu'à proposer quelqu'un d'autre à ma place. Baumé, qui était resté à l'écart, s'approcha. Il dit qu'il préférait que ce fût moi. Je protestai aussitôt en affirmant que Bailliencourt se chargerait beaucoup mieux que moi de ce petit travail. J'eus pourtant le temps de voir que les trois amis s'étaient tournés vers les autres camarades en entendant mon nom avec un air ironique. Bailliencourt commença par défaire son propre paquetage, puis, comme pris d'un scrupule subit, il pria l'un de nous de l'examiner. Comme personne ne bougeait, il procéda lui-même à cet examen avec un soin extraordinaire. Il n'en finissait pas de nous administrer la preuve que ce n'était pas lui le coupable. Je ne pus m'empêcher de lui dire à haute voix « Nous savons parfaitement que ce n'est pas vous », mais personne ne saisit l'ironie de ma remarque. Il passa ensuite aux autres paquetages. Ses recherches eurent ceci de curieux, que sous l'apparence d'être les mêmes pour tout le monde, elles se prolongeaient chez ceux que nous pouvions secrètement soupçonner. Finalement, comme il n'avait rien trouvé, une discussion où perçait de temps à autre jusqu'à des menaces de mort contre le voleur s'éleva entre nous, si bien que je renonçai à parler. Le lendemain matin, comme je déchargeais un wagon, Baumé s'approcha de moi. Il me dit que c'était lui qui avait volé le portefeuille. Il m'avoua même où il l'avait caché. Je lui dis de le rendre, ou plutôt de le remettre là où il l'avait pris et de ne plus recommencer. Le soir, Pelet retrouva son bien. Je simulai de l'étonnement lorsqu'il m'annonça la nouvelle. Cette restitution n'avait cependant pas apaisé la curiosité de mes camarades. Ils voulaient savoir qui était le voleur. Ils chuchotaient entre eux. Ni Baumé ni moi, nous ne nous mêlions à ces conciliabules. Je sentais bien que les soupçons se portaient sur Baumé. Comme je prenais toujours sa défense et que justement ce soir-là, je faisais semblant de me désintéresser de lui, on jetait sur moi des regards bizarres. Tout le monde n'avait pas oublié que Baumé avait demandé que ce fût moi qui fisse les recherches. On n'allait pas jusqu'à croire que j'étais son complice, mais on me soupçonnait d'être pour quelque chose dans le retour du portefeuille. Notre vie était trop dure pour que nous parlions longtemps de la même chose. Chaque fois qu'il me voyait, Baumé me rappelait qu'il m'avait demandé pardon. À la fin, je lui dis de ne plus m'en parler. Cette idée de pardon qui lui semblait une chose admirable commençait à m'agacer. J'avais de plus en plus l'impression que Bailliencourt et ses acolytes allaient nous fausser compagnie. J'entraînais Bailliencourt à l'écart. Je lui demandais de me dire franchement ce qu'il comptait faire. J'ajoutais que s'il projetait de s'évader, son devoir était de nous prévenir, afin que ceux d'entre nous qui avaient le même désir puissent le suivre. Au lieu de me répondre, il eut un mouvement d'humeur. Je le fatiguais avec ma manie de veiller sur mes camarades. Ceux-ci savaient mieux que moi ce qu'ils avaient à faire. ils ne m'avaient pas chargé de parler en leur nom, et firent une observation extraordinaire. Il fallait qu'au moment que nous aurions choisi pour nous évader, j'allasse au poste de garde en simulant des étouffements, par exemple, de façon à empêcher les sentinelles de sortir. Ainsi, malgré tout ce que j'avais fait pour eux, sans y être tenu par rien, uniquement par esprit de véritable camaraderie, mes compagnons se désintéressaient complètement de mon sort. Ils trouvaient tout naturel que je courusse un risque supplémentaire, que je restasse en arrière, que je me fisse prendre même pour leur permettre à eux de fuir. Je me gardais bien de m'abandonner à la mauvaise humeur que cet égoïste avait fait naître en moi. Je répondis qu'ils avaient parfaitement raison, que j'y avais moi-même pensé, heureux à l'idée de faire lever par ce moyen leurs dernières hésitations. Et en fait, j'étais sincère. Puisque c'était moi qui organisais tout, puisque je poussais mes camarades dans une voie que j'avais choisie, il était naturel que je prisse toutes les précautions possibles. Au dernier moment, prétextant d'affreuses douleurs, je me rendrais au poste de garde. Ou plutôt, je simulerais une fièvre de cheval, je grelotterais, je demanderais la permission de m'asseoir auprès du feu, je supplierais qu'on me la donne. En cas de danger, c'est-à-dire au cas où une sentinelle sortirait dans la cour, je ferais semblant d'aller mieux, et je retournerais auprès de mes camarades pour les prévenir. Si on ne me voyait pas revenir, cela signifiait que tout allait bien, que la route était libre.